Le dimanche des rameaux, c'est un jour où nous nous rappelons qu'une semaine avant de mourir sur la croix, Jésus a été publiquement reconnu comme roi. Les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous relatent le même épisode. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui nous sont relatés dans les quatre évangiles. Il y en a bien sûr, celui-ci en fait partie. Cet épisode donc de la dernière visite de Jésus à Jérusalem. C'est utile de rappeler quelques éléments de contexte. Jésus, même s'il est né à Bethléem, près de Jérusalem, dans la région de Judée, a ensuite grandi en Galilée, une province au nord d'Israël. Et c'était une province qui, à l'époque, était considérée quasiment comme un autre pays. Il fallait plus ou moins passer une frontière pour aller de Judée en Galilée. Alors certes, la Galilée et la Judée partageaient une langue, un héritage historique et religieux, mais elles avaient été subdivisées par l'occupant romain. Donc il s'agissait de deux provinces romaines différentes qui étaient dirigées par des autorités distinctes. Et puis, c'était des régions assez différentes. La Galilée était une région rurale pour l'essentiel, très agricole. Il y avait bien sûr quelques grandes villes. Les Galiléens étaient considérés à Jérusalem un peu comme des provinciaux qui avaient par exemple un accent différent. On le voit dans un épisode où Pierre se fait presque démasqué comme disciple de Jésus, à un moment où il essaye, un épisode peu glorieux où il essaye de se cacher, et on le reconnaît à son accent. Alors je ne sais pas si c'était un peu les Marseillais de l'époque, où tout de suite on entendait un peu d'où il venait, mais la Galilée en tout cas était une région mixte également, avec certains districts, certaines poches de cette région qui étaient en grande partie non-juives. Donc il y avait aussi une diversité ethnique et religieuse au sein de cette région. Et du coup, elle était considérée parfois de façon un peu suspecte par les Judéens, qui, eux, vivaient dans la région juive par excellence, dans laquelle se trouvait le temple, celle où avaient lieu les grandes fêtes juives, etc. Alors cet arrière-plan, pourquoi en parler ? Eh bien, il est intéressant parce que l'origine galiléenne de Jésus a contribué à la suspicion qu'avaient à son égard bon nombre de dignitaires religieux à Jérusalem. Et il y a un épisode qui nous est relaté dans l'évangile de Jean qui met cela en relief. Nicodème, qui était l'un des membres du Sanhédrin, c'était en quelque sorte le haut conseil du judaïsme de l'époque, Nicodème est un des rares de l'élite religieuse, si on veut, qui a pris la défense de Jésus et qui a au moins sympathisé avec son enseignement. Et les collègues de Nicodème lui disent « Mais serais-tu de Galilée, toi aussi ? Cherche bien et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. » Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 7. Et on sent là un peu le mépris aussi des gens de la capitale contre la province. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui doit nous parler aussi. Alors ça fait maintenant entre 2 et 3 ans, selon les hypothèses, que Jésus exerce un ministère public en Israël, à la fois en Galilée, sa région d'origine, mais aussi à Jérusalem. Or, c'est en Galilée, où il habitait, que Jésus a passé le plus de temps. Et on constate, en lisant les évangiles, que les réactions contre lui étaient globalement plus favorables en Galilée, où il y avait vraiment les foules qui se déplaçaient pour voir et écouter Jésus, plutôt qu'à Jérusalem, où certes, il y avait des gens qui ont cru en lui, mais il y avait beaucoup d'opposition. Et dans le texte de ce soir, nous sommes une semaine avant la grande fête annuelle dans le judaïsme, la fête de la Pâque. Et Jésus arrive à Jérusalem, et en fait, lui le sait, et d'ailleurs il l'a annoncé, c'est la dernière fois avant sa crucifixion. Or, il ne vient pas seul. Il est entouré d'un nombre important de pèlerins qui viennent, donc qui vont à Jérusalem pour la Pâque, et en particulier, parmi ces pèlerins, il y en a qui sont devenus ses disciples et qui forment en quelque sorte son cortège. Et ce sont des Galiléens comme lui, pour l'essentiel, semble-t-il. Parmi ses disciples, il y a ceux qui sont ses compagnons de route depuis sans doute 3 ans, les disciples du premier cercle, notamment les 12 disciples. Mais le texte parle, au verset 37, d'une multitude de disciples, sans nous donner de chiffres, mais enfin, il y en avait quand même beaucoup. Et donc, ça dépassait largement ce premier cercle. Il est bien important de comprendre cette scène, je crois. Parce que, imaginez un peu la scène, vous avez tout un groupe de provinciaux qui arrivent dans la capitale avec cet homme, Jésus, qu'il déclare, en tout cas pour certains d'entre eux, être le Messie, le roi légitime d'Israël, l'héritier du trône de David. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, le texte laisse entendre que ce ne sont pas, en tout cas majoritairement, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ce jour-là acclament Jésus et qui, une semaine plus tard, réclameront sa mort. Pour l'essentiel, ceux qui l'acclament à son entrée à Jérusalem, ce sont des pèlerins galiléens, tandis que ceux qui réclameront sa mort sont en majorité des résidents de Jérusalem. Et c'est là qu'une scène étonnante va se produire. Le texte nous parle à la fois de la préparation de cette scène et de son déroulement. Et je voudrais que nous recevions le texte ce soir comme une déclaration de la royauté de Jésus, une royauté unique et incomparable. Et il nous faut bien comprendre cela si on veut comprendre les événements de la semaine suivante. La passion, ce qu'on appelle la passion de Jésus, les outrages qu'il a subis, sa souffrance, la crucifixion et au dimanche de Pâques, sa résurrection. Alors j'ai voulu dresser un peu le décor et passer un peu de temps sur cette introduction, mais on va maintenant passer au texte lui-même et on va y réfléchir, soyons classiques, en trois temps. D'abord le roi attendu, puis le roi contesté et enfin le roi révélé. Le roi attendu d'abord. Bon, on viendra à la citation dans un instant. Le mot roi, en fait, il est utilisé qu'une seule fois dans ce texte, c'est au verset 38. Mais toute cette scène s'éclaire à la lumière de l'identité royale de Jésus. Au début du texte, on voit Jésus envoyer deux disciples chercher un ânon, autrement dit un bébé âne, avec des instructions précises. Ils doivent le détacher et l'apporter à Jésus en précisant aux personnes qui éventuellement les interrogeraient là-dessus, que le Seigneur en a besoin. Alors en lisant ce texte, on peut se poser un peu cette question. Est-ce que Jésus ici a exercé sa préscience divine ? Est-ce qu'il a exercé sa préscience pour dire aux disciples « voilà comment ça va se passer » ? Ou bien est-ce qu'en fait il avait organisé la chose à l'avance ? Il s'était arrangé avec une connaissance pour emprunter cet âne ? Le texte ne le précise pas, et à vrai dire, peu importe. Le fait est que la scène qui va suivre avait été prévue par Jésus, d'une façon ou d'une autre. Alors on peut se demander, pourquoi cette préparation ? Pourquoi aller chercher un âne ? D'ailleurs, si on y réfléchit, Jésus avait déjà fait tout le chemin depuis la Galilée, c'était des journées de marche. Pourquoi est-ce que maintenant, alors qu'il est sur le point d'arriver, il aurait besoin d'un âne ? Et puis, franchement, un roi ? Si, le but c'est de se présenter comme roi qui entre dans sa ville, pourquoi choisir un âne ? On aurait envie de dire, mais pourquoi pas choisir par exemple un grand cheval blanc, quelque chose comme ça. Mais il y a un texte clé de l'Ancien Testament qui nous donne la réponse à ces questions. Le prophète Zacharie écrit ceci, sauf erreur de ma part, à peu près 4 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Il écrit ceci à propos de la venue du Messie, c'est-à-dire de l'héritier de David, héritier du grand roi David. Ce roi qui allait être le roi d'Israël, mais bien plus, qui allait être le roi des rois, d'après l'Ancien Testament, le roi universel. Voici ce que dit le prophète Zacharie. « Sois transporté d'allégresse, Sion la belle. » Sion, c'est Jérusalem. « Lance tes acclamations, Jérusalem la belle. Il est là ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon. Le petit d'une ânesse. » Ah, désolé, petit couac. Voilà. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera pour la paix des nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas si vous êtes frappé comme moi par le paradoxe dans ce texte entre un roi qui nous est décrit comme pauvre et monté sur un âne, vraiment un symbole de modestie, d'humilité, et qui pourtant exercera une domination d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. On y reviendra. Mais en tout cas, le doute n'est pas permis. Si Jésus a prévu d'entrer à Jérusalem, monté sur un ânon, c'est bien sûr pour faire écho à ce texte du prophète Zacharie. Et c'est d'autant plus frappant que Jésus, jusque-là, il a généralement préféré éviter les honneurs publics. Il a même demandé à certaines personnes qu'il avait guéries de ne pas en parler. Ça arrive assez souvent. Par exemple, si on pense au miracle de la multiplication des pains, donc ça s'est passé en Galilée, 5 000 personnes, voire plus, ont été nourries. miraculeusement et la foule en Galilée était tellement stupéfaite qu'elle a voulu le déclarer roi. Et Jésus, à ce moment-là, s'est retiré, il s'est quasiment enfui pour que ce mouvement populaire de désignation royale n'ait pas lieu. Et pourtant, aujourd'hui, alors qu'il arrive à Jérusalem, Jésus se présente sans ambiguïté comme le roi annoncé à l'avance par l'Ancien Testament. Un roi qui devait venir pour apporter le salut à son peuple et même pour être un sauveur pour le monde entier. Et ses disciples ne s'y sont pas trompés. Verset 38, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Jérusalem, c'était la ville du roi David, le grand roi de l'histoire d'Israël. Et également, c'était la ville du temple construit par Salomon, le fils de David. C'était la ville qui symbolisait à la fois la royauté selon Dieu et en même temps le culte de Dieu, la présence de Dieu parmi son peuple. C'était vraiment la ville qui symbolisait par excellence l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Pourtant, cette ville, elle avait été détruite, ravagée par les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle avait été ensuite partiellement reconstruite, un nouveau temple avait été reconstruit, mais à nouveau la ville a été envahie à l'époque dite des Maccabées au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et à l'époque de Jésus, après toutes ces péripéties, Jérusalem était cette fois sous le contrôle de l'Empire romain. Et si on y réfléchit, ça veut dire que la capitale du peuple de Dieu était occupée par la grande puissance païenne. Tout un symbole. Et il y avait en Israël une attente mêlée d'incompréhension et de lassitude. Mais qu'en est-il des promesses de Dieu? Quand viendrait enfin ce grand roi promis, le Sauveur qui allait libérer Israël de l'oppression? Et lorsque Jésus se présente à Jérusalem, monté sur un ânon, il se présente comme le grand libérateur de son peuple. Et pourtant Jésus, on constate qu'il n'est pas venu renverser le pouvoir romain, il n'en a quasiment pas parlé, en tout cas pas par les armes. Il n'est pas venu rassembler une armée, au contraire, il est venu mourir pour son peuple, afin d'accomplir une délivrance à la fois totalement inattendue et beaucoup plus profonde que ce à quoi le peuple s'attendait. Les disciples de Jésus, eux, ils ont commencé à comprendre que Jésus est bien le roi promis, en tout cas certains d'entre eux. Mais l'arrivée de Jésus à Jérusalem ne fait déjà pas l'unanimité, loin de là. Jésus est aussi un roi contesté. Et ce texte nous donne déjà une indication discrète du drame qui va se dérouler dans les jours suivants. Le roi contesté. Les pharisiens, donc ces grands maîtres, professeurs de la loi, c'était tout un mouvement religieux sur lequel, bien sûr, il y aurait beaucoup plus à dire. Mais en tout cas, ils ne s'y sont pas trompés. Ils ont parfaitement compris ce que Jésus est en train de faire, la manière dont il se présente en écho au texte de Zacharie 9. Et ils sont indignés. Comment ce prophète galiléen en plus, mais comment ce prophète peut-il se présenter comme le Messie? Comment ose-t-il entrer avec un cortège triomphal autour de lui? Et leur opposition à Jésus dans ce texte, elle est encore un peu feutrée. Ils disent, mais maître, rabroue tes disciples, autrement dit, dis-leur d'arrêter, dis-leur de se taire. Ce qui semble les choquer avant tout, c'est précisément la dimension royale évidente de cette procession. Les pharisiens et autres maîtres religieux, on voit dans les évangiles qu'ils sont prêts à la limite à reconnaître à Jésus le rôle de maître, c'est-à-dire d'enseignant, de religieux, de rabbin. Le fait est que Jésus avait un nombre croissant de disciples, sa renommée s'était répandue dans toute la Galilée et jusqu'à Jérusalem, où il avait aussi accompli des miracles, où il avait aussi apporté un enseignement radicalement nouveau dans le temple. Et l'élite religieuse de Jérusalem, dans l'ensemble, bon, elle n'aimait ni Jésus ni son enseignement, ça c'est très clair. Mais enfin, il pouvait éventuellement être pragmatique. S'il se contentait d'être un rabbin galiléen pour ses provinciaux, bon, passe encore. Mais ici, les disciples de Jésus l'acclament comme un roi, et pas n'importe quel roi. Rappelons-nous ce que dit le texte de Zacharie, auquel Jésus fait clairement écho. Il parlera pour la paix des nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Les pharisiens connaissaient ce texte. Ils ont parfaitement compris le sens du geste de Jésus. Par ailleurs, ils voient la foule des disciples qui étendent leurs vêtements sur le chemin devant Jésus. Et là aussi, c'était une image symbolique pour montrer qu'on rend hommage à un roi. Pour eux, Jésus est éventuellement le maître à penser de ses disciples, pourquoi pas, mais en aucun cas le Messie et le roi de toute la terre. Et n'ayant pas compris qui est Jésus, le choc qu'ils ressentent est compréhensible. Mais ils commettent une erreur tragique. Ils n'ont pas compris que Jésus est véritablement celui qu'il affirme être. Et quelques versets plus loin, dans l'extrait suivant, qu'on ne va pas voir ce soir, mais au verset 24, Jésus va pleurer à propos du fait que Jérusalem n'a pas reconnu le temps de l'intervention divine. Et en fait, aujourd'hui encore, c'est la même question clé qui se pose à tout homme, à toute femme. Qui est Jésus pour nous ? Et Wissam nous a déjà posé cette question tout à l'heure. Pour beaucoup aujourd'hui, dans notre société sécularisée, à vrai dire, il ne suscite guère que l'indifférence, des sentiments vaguement positifs, ou pour certains très positifs, mais avant tout, les gens le voient comme un maître à penser qui a eu une influence et dont il faut tenir compte. C'est un peu comme le pensaient les pharisiens à l'époque. Oui, il faut tenir compte de lui, c'est quelqu'un qui a une influence. Très bien. Mais ici, Jésus, en revêtant le rôle de ce roi universel annoncé par le prophète Zacharie, il se présente comme le roi de l'univers entier. Il se présente comme ce roi dont la domination s'étendra sur toute la terre. Et lorsque les pharisiens lui demandent de faire taire ses disciples, il leur répond par cette phrase saisissante. « Si je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Si Jésus n'a pas demandé à ses disciples de se taire, contrairement à ce qu'il avait parfois fait dans le passé, s'il a lui-même soigneusement préparé cette entrée majestueuse à Jérusalem, c'est parce que, comme il le dira par ailleurs, l'heure est venue. Si Jésus entre à Jérusalem, ce n'est pas pour faire un coup d'État, mais c'est pour mourir crucifié, pour subir à la place des pécheurs la juste condamnation de Dieu. Et il le sait parfaitement. Il a déjà annoncé plusieurs fois à ses disciples. À chaque fois, ils font un peu comme s'ils n'avaient rien dit, ils changent un peu le sujet. Mais il leur a dit, Jésus est venu à Jérusalem pour sauver son peuple et pour sauver des hommes et des femmes de tous les peuples, jusqu'à nous, au XXIe siècle. Il est venu libérer les captifs. Il est venu restaurer Israël, mais pas du tout de la manière dont les gens à l'époque l'attendaient. Et je terminerai avec ce dernier point, le roi révélé. On pourrait voir dans la réponse de Jésus au verset 40 une simple hyperbole, une exagération poétique. Si eux se taisent, mais ce sont les pierres qui crieront. Et bien sûr qu'il y a une part d'hyperbole. Jésus ne s'attendait pas à ce que les pierres se mettent littéralement à crier sur son chemin. Même si, à n'en pas douter, celui qui a changé l'eau en vin et ressuscité des morts aurait pu, s'il avait voulu, accomplir ce miracle. Mais précisément, il n'y a pas ici qu'une exclamation poétique. Je crois qu'il y a aussi une affirmation symbolique. Rappelons-nous ce qu'a dit le prophète Zacharie. Il parlera pour la paix des nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités des nations. Et on pourrait citer d'autres textes de l'Ancien Testament qui nous parlent d'un règne à la dimension cosmique, littéralement, c'est-à-dire qui implique tout le cosmos, toute la création, un renouvellement de toute chose, un renouvellement de toute la création. En s'asseyant sur un ânon, Jésus se présente comme ce roi messianique qui vient, c'est vrai, libérer son peuple, mais qui vient aussi pour libérer ultimement la création entière. Le prophète Ésaïe proclame ces paroles au chapitre 11 de sa prophétie. « Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau, la vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, le lion comme le bœuf mangera de la paille. » Alors bien sûr que ce sont là aussi des images, mais c'est des images pleines de sens. La création entière sera remplie de la paix de Dieu. Et c'est ce que confirme la suite du texte. Il ne se fera aucun mal. Il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Lorsque Jésus répond aux pharisiens que « si les disciples se taisent, ce sont les pierres qui crieront », il s'exprime symboliquement, c'est vrai, mais je pense qu'il entend par là que ce qui est en train de se passer, ce jour-là à Jérusalem, où il entre comme roi, et ce qui va se passer dans les jours suivants, lorsqu'il va mourir à la croix et ressusciter, ça concerne toute la création. Ça concerne le monde entier. Et ultimement, toute la création, y compris la nature, a été créée pour révéler la gloire de Dieu, pour dire par sa beauté que Dieu existe, qu'il est puissant, qu'il est sage et qu'il règne. Le psaume 19 nous dit ceci, « Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. » Et l'apôtre Paul écrit par ailleurs dans sa lettre aux Romains, Romains 8, verset 19 à 21, il écrit ceci, « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » C'est une façon de dire le jour où les rachetés de Dieu vont connaître la vie éternelle. « En effet, la création a été soumise à la futilité avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Oui, Jésus est venu libérer les captifs. Et c'est ce qui avait été annoncé à propos du Messie. Mais la captivité dont il est venu libérer son peuple, ce n'est pas la captivité romaine ou autre, c'est la captivité du péché et de la mort, l'esclavage d'une vie vécue loin de Dieu. Or, cette condition humaine qui est marquée par l'aliénation de notre Créateur et ce besoin criant qu'a chaque homme, chaque être humain, d'être réconcilié avec son Créateur, ça c'est tout aussi actuel aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et c'est pour ça que l'appel de Jésus retentit aujourd'hui encore en attendant son retour pour établir définitivement cette nouvelle création. Si Jésus est venu pour être le roi non seulement d'Israël, mais de l'univers entier, alors il est sans aucun doute le souverain légitime aujourd'hui également, même ici, à Paris, en France. Comme aime à le dire un collègue que j'apprécie, Edouard Nelson, il dit souvent « Jésus, c'est le roi de Paris ». Et c'est vrai. Pour l'instant, ce règne est voilé, ce règne est discret. C'était le thème de la prédication ce matin. Dieu œuvre comme en coulisses et prépare ce renouvellement de toutes choses que la Bible entière proclame. Mais l'acte fondateur de ce nouveau monde, il a été posé il y a bientôt 2000 ans, lorsque Jésus est mort sur la croix. Et lorsqu'il est ressuscité, 3 jours plus tard. Lorsqu'il entre à Jérusalem la semaine qui précède sa mort, il est acclamé, mais il est déjà contesté, on l'a vu. Et cette contestation, qui est déjà visible dans l'épisode de ce soir, elle prendra une dimension terrifiante. Lorsque les soldats romains, à qui les responsables religieux d'Israël avaient livré Jésus, l'ont fouetté, lui ont craché dessus, se sont moqués de lui, lui ont mis une couronne d'épines sur la tête et ils l'ont crucifié, lui. Et pensez maintenant que cet homme sur qui on a craché, dont on s'est moqué et qui s'est fait crucifier, c'est le roi de l'univers. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait homme. Pensez à cela et imaginez combien c'est terrifiant ce qui s'est passé. L'homme s'est saisi de Dieu. Il l'a torturé, littéralement. Mais Dieu s'est révélé au dimanche de Pâques comme celui qui reste et qui est pour toujours le maître de la vie et le seigneur du monde entier. Et tout à l'heure, je parlais un peu en plaisantant d'un cheval blanc sur lequel Jésus aurait pu entrer. Et c'est vrai qu'il est entré à Jérusalem sur le dos d'un âne, humblement. Mais le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, nous parle de Jésus lorsqu'il reviendra et nous le décrit cette fois sur un cheval blanc. On peut interpréter ça comme une image, mais Jésus, son règne n'est pas éternellement modeste et discret. Aujourd'hui, il l'est, mais c'est parce qu'il prépare un règne qui, là, sera manifeste et glorieux. Et la question nous est posée aujourd'hui encore face à Jésus. Saurons-nous voir en lui le maître de l'univers entier? Et si oui, avons-nous bien compris que s'il est le roi de l'univers, on voit mal comment il pourrait ne pas être le roi de notre vie entière, dans tous ses aspects. Ou bien sommes-nous de ceux qui préféreraient que Jésus se taise ? Maître, fais taire tes disciples. Sommes-nous de ceux qui préfèrent finalement leur propre autorité à l'autorité de Jésus ? Prions. Notre Dieu, merci de nous rappeler qui tu es. Merci de nous rappeler qui est ton Fils Jésus-Christ, celui qui est venu pour être Dieu incarné et en même temps roi de l'humanité. Seigneur, il y a là un mystère que nous ne pouvons que très, très partiellement saisir, sur lequel nous n'avons pas vraiment de prise. Mais nous reconnaissons que toi, notre Créateur, tu as voulu nous connaître. Et pour cela, tu as été jusqu'à quelque chose que d'inimaginable. Merci pour ce temps des rameaux. Nous pouvons nous rappeler de Jésus, à la fois humble, monté sur un âne, et en même temps acclamé par ceux qui ont reconnu qu'il est le roi du royaume qui vient. Au nom de Jésus. Amen.